I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Ça, ouvre-moi, ou le chasseur me tuera. Lapin, lapin, intriga, me serrer la main, me serrer la main, me serrer la main.
Ça, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love, et je connais l'envers du décor. Et vous écoutez Le Tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Avant de devenir maman, Anne-Lise était bassiste dans un groupe de rock et vivait sa vie à 1000 à l'heure, très loin de la maternité. Elle ne désirait pas spécialement avoir d'enfants, et puis, la maternité est venue à elle, à 40 ans. Dans cet épisode, Anne-Lise nous raconte sa vision de la maternité quand elle était musicienne, comment elle est finalement devenue maman, et elle nous parle aussi de son livre dédié à la maternité tardive. Bonne écoute.
Bonjour Anne-Lise, merci beaucoup de m'avoir proposé de témoigner dans le tourbillon.
Bonjour, je suis ravie d'être là.
Alors tu es devenue maman à 40 ans et je voudrais revenir avec toi sur tout ton cheminement jusqu'à la maternité. Quelle était ta vision de la maternité avant de devenir mère ?
Assez vague en fait, je m'y intéressais pas beaucoup. Même petite fille, je me souviens pas trop m'être dit oh là là, quand je serai plus grande, j'aurai des enfants, un mari, etc. Enfin, j'ai pas non plus été élevée avec beaucoup de poupées ou dans une ambiance très girl, donc je sais pas si ça tient à ça. Adolescente, même chose, c'était pas quelque chose qui m'obsédait, et jeune adulte, encore moins. Puisque je rêvais plutôt d'une vie d'artiste. J'étais musicienne dans un groupe de rock, voilà. Je jouais de la basse en fait pendant mes études en fac, et puis l'aventure a pris plus d'ampleur que ce que j'imaginais. On a été signé par une maison de disques, donc ça c'était vraiment à la fin de mes études quand je commençais tout juste à travailler en entreprise. À un moment, j'ai pris la décision de tout lâcher pour faire que de la musique. Voilà, je me disais, ça y est, il y a un rêve qui est en train de se réaliser. Donc,
t'avais quel âge ?
Bah, j'avais une vingtaine d'années, c'est-à-dire que j'ai dû finir mes études vers 23 ans. Au moment où la musique devenait un petit peu sérieuse, c'est-à-dire qu'on répétait régulièrement, on commençait à avoir des maisons de disques qui s'intéressaient un peu à nous. Mais rien n'était encore fait. Et puis j'ai bossé pendant 2 ou 3 ans. Ça a continué à faire son chemin. On a surtout continué à écrire, à faire des concerts, à se faire connaître un peu partout. On jouait sur les péniches parisiennes. C'était la grande époque des péniches. Parce qu'on ne pouvait plus jouer dans les bars parisiens parce qu'il y avait une nouvelle loi sur les nuisances sonores. Donc tout était délocalisé sur les bords de Seine, donc c'était assez chouette. Et puis un jour, je me suis dit bon, bah il faut qu'on se professionnalise, donc ce serait peut-être pas mal de trouver un manager. On en a discuté dans le groupe et moi j'ai décidé de lâcher mon boulot de l'époque. Je travaillais à l'export dans une boîte de cosmétiques et je me suis mise en quête d'un manager. Alors à l'époque, on envoyait encore des cassettes audio. C'est un peu préhistorique, mais bon. Donc voilà, j'ai rencontré différentes personnes. Et puis l'aventure s'est poursuivie comme ça pendant 10 ans. Donc on enchaînait l'écriture d'albums, les tournées. De temps en temps, j'avais un petit job à droite à gauche pour les fins de mois un peu plus difficiles. Mais on va dire que globalement, on arrivait à vivre... pas grandement, hein, mais on arrivait à vivre de notre art et c'était très chouette. Voilà, on évoluait dans des ambiances assez artistiques, voilà, avec on rencontrait des gens assez chouettes. Enfin, voilà, il y avait tout un, c'était assez foisonnant. Et moi, j'avais pas du tout l'intention, les années passées, j'avais pas du tout l'intention de faire un enfant. Et de toute façon, dans mon entourage, il y avait très peu de gens qui avaient des enfants, finalement. Ça, c'était donc entre, autour de 25, 30 ans. Mmh. Voilà, entre 20, on va dire que la grande période musicale, c'était entre 25 et 35 ans.
Bon. D'accord.
Et je subissais, par contre, les petites réflexions. De temps en temps, des copines qui commençaient à tomber enceintes, ou mes parents. C'est vrai que on me posait souvent la question, mais alors, toi, quand est-ce que tu fais un enfant? D'autant que j'étais en couple. Donc... c'est toujours très étrange de ne pas faire d'enfant autour de la trentaine quand on est en couple. Enfin, c'est curieux. En tout cas, à l'époque, ça l'était. C'est peut-être moins aujourd'hui. Mais voilà, ça ne me motivait pas plus. Alors, parmi les réflexions rigolotes que j'ai eues de gens pas très fins, il y avait « Mais si tu ne fais pas d'enfant, tu vas finir vieille toute seule. »
Même voilà. En étant en couple.
Oui, même en étant en couple, ouais, c'était quand même. Et puis, bah, plus j'avançais en âge, plus les réflexions... présente de temps en temps, ma mère me posait la question, voilà, mais non, vraiment le désir d'enfant n'était pas là.
Et toi, c'était un poids toutes ces questions ou ça te passait au-dessus?
Disons que ça avait tendance à glisser, mais ça m'énervait un peu quand même, hein. Enfin, et surtout je comprenais pas pourquoi tout le monde s'y mettait, quoi. Surtout, j'avais pas autour de 25 ans, mais autour de 30 ans, voilà. Quand même pas mal de copines qui commençaient à faire des enfants à droite à gauche. Et vraiment, non, moi, j'étais pas du tout intéressée par ça. Et alors, je pense qu'il y a un phénomène aussi quand on est dans la création, c'est que la création artistique, ça nourrit. Mmh. Et ça satisfait pleinement. Donc, je crois que j'avais pas de place pour un désir d'enfant, quoi. J'étais plus ou moins comblée par cette espèce de création, par la scène aussi, par tout ce que pouvait nous renvoyer le public. Voilà, j'étais probablement très auto-centrée. Hein. Avec le recul, je me dis quand même, je tournais autour de moi et autour du groupe, et puis le reste avait pas tellement d'importance, d'autant que mon couple était inclus dans le groupe, donc bon...
Ton chéri n'avait pas de désir d'enfant
non plus. Alors non plus, voilà, et puis on avait une approche très intellectuelle de la chose, et ça me fait sourire maintenant quand j'y pense, mais bon, ça pouvait s'argumenter à l'époque quand même. C'est vrai qu'on se disait, mais après tout, on est déjà en surpopulation mondiale, il y a plein d'enfants qui n'ont pas de parents, à la rigueur, on se verrait bien adopter, mais faire un enfant... c'est quand même un acte pas égoïste, mais bon, un acte un peu particulier, quoi. Enfin, il faut vraiment être super motivé pour faire des enfants dans ce monde-là. Voilà, donc des discours un peu dans ce style, quoi. Et puis, l'aventure musicale a pris fin, parce que c'est quand même compliqué de durer dans ce métier. En plus, c'était... la période où l'industrie du disque s'effondrait littéralement, où les gens commençaient à télécharger massivement les albums. Donc nous, on a vraiment vu nos ventes d'albums chuter entre le premier et le deuxième, et entre le deuxième et le troisième. Et puis ça reste un métier qui n'est pas évident. Les relations avec les maisons de disques, c'est compliqué aussi. On s'est fait un peu avoir par la dernière. Bon, autour de 35 ans, on s'est dit, bon, bah voilà... C'est peut-être la fin, peut-être qu'on arrivait au bout du chemin. Parallèlement, mon couple touchait aussi à sa fin. On avait grandi ensemble, on avait fait beaucoup de choses, mais bah, finalement, on est arrivé au bout de la route, quoi. Mmh. Donc voilà, il a fallu faire autre chose. Enfin, pour moi, ça a été quand même pas un effondrement, mais quand même quelque chose d'assez brutal, quoi. Le couple qui s'arrête, le groupe qui s'arrête, enfin ma vie pro, perso, tout ça, c'était chamboulé. Et je me suis vraiment demandé ce que j'allais faire.
Et alors, qu'est-ce que tu as fait?
Alors, j'ai eu des opportunités. Donc ça, c'est... Parfois, la vie, elle est bien faite. Hein. Professionnellement, j'ai un copain qui s'occupait d'un site internet qui s'appelait Côté Bébé et qui était à l'époque un portail dédié à la garde d'enfants. Et il cherchait en fait une petite main, quelque sorte, pour l'aider à maintenir ce site, à développer un petit peu la com, les réseaux sociaux, etc. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans le digital, mais sans vraiment l'avoir eu comme projet. Enfin, c'était un peu le hasard des choses, parce que je me voyais pas retourner redevenir assistante export. Voilà, et puis je me voyais surtout pas retourner en entreprise. Oui. Alors là, j'avoue que...
Après la vie de rockstar.
Après la vie de, bon, rockstar entre guillemets, hein, dans toute modestie, mais en tout cas après cette vie, c'est cette espèce de liberté absolue qu'on peut avoir quand on dispose de son temps comme on veut dans une journée. Je ne me voyais pas. En plus, c'était l'époque des open space. Moi, j'avais connu les petits bureaux, on n'était pas trop nombreux. Tout ça. Vraiment, l'open space, pour moi, c'était devenu un gros mot, quoi. Je me disais, non, mais jamais je vais y arriver. Jamais je vais pouvoir reprendre une vie comme ça. Il me faut un sas de décompression, quoi. Peut-être plus tard, mais là, il faut que je fasse autre chose. Et donc, ce copain en question me proposait de venir bosser avec lui dans son petit bureau, en freelance, à temps partiel. Enfin, ça me convenait bien. D'autant qu'à côté, j'avais lancé ma marque de maroquinerie. Petite marque... voilà, je faisais des accessoires, ça s'appelait Lisanote, donc ça me plaisait bien. Je n'avais pas encore trop professionnalisé le truc, mais je trouvais ça chouette. C'était la continuité de la création artistique, en fait. Enfin, voilà, toujours cette idée de s'accomplir dans quelque chose de créatif et d'artistique. Et donc j'ai commencé à travailler pour ce copain, donc j'ai découvert un peu le digital, les métiers aussi, les différents métiers du digital.
Tu as aussi, croisé la maternité à ce moment-là.
Alors, voilà, c'était très drôle et ça faisait beaucoup rire mes amis parce que donc je travaillais pour ce site qui s'appelait Côté Bébé et j'écrivais un peu, il y avait un premier blog qui avait été mis en place, donc j'écrivais sur la maternité en me sentant un peu une imposteuse quand même. Je me disais, mais attends, en fait, non seulement tu n'as pas d'enfant, mais en plus tu ne t'y intéresses pas du tout. Donc je me rappelle que j'appelais des copines pour avoir des infos, pour être sûre de ne pas dire n'importe quoi. Bon, le gars avec qui je bossais était déjà papa, donc c'était pratique aussi. Je pouvais valider un certain nombre de choses, mais je le faisais de façon relativement détachée. Et en même temps, j'engrangeais tout un tas d'informations sur quand même la grossesse... la maternité, les relations avec les enfants, l'éducation, enfin mine de rien, je pense que j'ai, voilà, je me faisais une petite bibliothèque dans la tête déjà. Et puis en parallèle, donc ça c'était pour ma vie professionnelle, et puis en parallèle j'ai rencontré mon compagnon actuel qui était déjà papa.
Donc tu es devenue belle-maman.
Donc je suis devenue belle-maman, voilà. Et donc, il avait un petit garçon de 3 ans et demi qui s'appelle Thomas. Et c'était un couple très fusionnel parce que, bon, la maman était plus ou moins partie à la naissance. Enfin, c'était un peu compliqué. Donc, le papa et le petit garçon, il y a une relation très fusionnelle. Et moi, bon, bah, je la famille recomposée, je ne savais pas ce que c'était. Enfin, pour moi, c'était normal que ça se passe bien avec lui. De le prendre un petit peu sous mon aile, de partager des choses. Et Thomas m'a vraiment ouvert grand ses bras. Il avait 3 ans et demi. Je me souviendrai toujours de la façon dont il m'a accueillie, en fait, très naturellement, très spontanément. Je suis vraiment rentrée dans le creux, là, dans le nid qu'il formait avec son père, assez facilement. Et puis, on a pris notre temps pour habiter ensemble. Voilà, on a laissé le temps à la relation.
Est-ce que tu t'étais posé des questions, toi, avant de t'installer justement dans cette relation par rapport au fait qu'il soit déjà papa ?
Pas trop, parce que, probablement parce que Alors, j'étais très contente, enfin, j'étais contente pour mes copines qui devenaient maman, mais je ne m'intéressais pas tellement aux enfants. Je les aimais bien chez les autres, je trouvais ça chouette, mais bon, mon frère était devenu papa, donc j'avais des petits-neveux quand même que je voyais de temps en temps, mais globalement, je ne m'étais pas des masses posé de questions sur la maternité, sur le rapport à l'enfant. Donc, ça me paraissait. En tout cas, moi, je suis allée dans cette famille recomposée, enfin, je me suis glissée dans le rôle de la belle-maman avec pas mal de naïveté.
Il n'y avait pas de frein.
Il n'y avait pas de frein. Et puis j'ai eu la chance, hein. Je pense que voilà, j'ai vraiment eu de la chance parce que c'est pas pour avoir discuté avec d'autres belles mamans, c'est quand même pas toujours le cas. Moi j'ai eu de la chance que ce petit garçon, bon, qui a en plus un caractère un peu exceptionnel, m'ait vraiment ouvert les bras, quoi. C'est-à-dire sans aucun problème, il n'y a pas eu de jalousie, il n'y a pas eu de. Voilà, j'ai pas le souvenir de quoi que ce soit dans ce genre-là, quoi. Je rentrais dans sa vie Bon, le papa était relativement prudent par rapport à ça. Il l'a attendu un petit peu avant de me le présenter, mais pas non plus 6 mois. Hein. Je l'ai connu au bout d'un ou deux mois de relation. Je connaissais son fils, j'allais dormir régulièrement chez eux. Je pense que le rôle du père a été très important. Aussi, c'est qu'il n'a posé aucune barrière. Quoi. Il m'a laissé faire. J'ai pu avoir joué un rôle de belle-mère quand ça se passe bien. Quoi. Une belle-mère à qui on donne... un certain nombre de droits.
Mais peut-être que le fait que tu étais détachée justement de la maternité, tu voulais imposer aucun rôle, peut-être qu'il l'a senti.
Oui, sans doute, ouais, je pense que ça s'est passé aussi bien à cause de ça, oui, bien sûr. Bien sûr, quelque chose de, ouais, d'assez spontané, d'assez naturel. Et puis, du coup, moi, j'ai découvert un peu la vie de famille. Se lever le matin avec un petit garçon qui vient glisser dans le lit, qui te fait des câlins, partager, l'emmener voir des spectacles, partager des choses, faire des week-ends en famille. Et ça s'est plutôt bien. Parce que c'était pas évident non plus de passer de je fais des concerts à je vais voir un spectacle de magie, quoi. C'est un peu le grand écart, mais comme on a laisser le temps à la relation de se mettre en place et que je ne suis pas tout de suite allée vivre chez lui. Enfin voilà, j'avais une certaine indépendance aussi par rapport à ça. Ça s'est fait plutôt bien.
Et alors, comment est arrivé ce désir d'enfant ?
Même chose, alors très progressivement. Je pense qu'il y a eu un petit coup d'horloge biologique, hein, forcément, même si j'en étais pas hyper consciente à l'époque, parce que c'est autour de 38 ans que j'ai commencé à me poser la question, j'ai commencé à me dire, ouais, quand même, ça pourrait être sympa, quoi. Ça pourrait être sympa, puis là, on est une famille, on est 3, mais un nombre impair, bon, voilà, 4, ça pourrait être chouette, quoi. Et puis Thomas, peut-être que ça lui ferait plaisir aussi. Alors, il avait déjà un petit frère de l'autre côté, mais voilà, chez nous, on était 3. Et puis, j'ai commencé à en parler, gentiment. Et mon compagnon, il s'attendait pas trop à ça, parce qu'il avait quand même plutôt l'impression que ça faisait pas partie de mes projets. Donc un petit peu surpris, et puis il a fallu que je le convainque, plus ou moins, parce que c'était pas évident pour lui aussi de se dire qu'il pouvait potentiellement revivre un accouchement et un... quelque chose de compliqué en tout cas à la naissance. Considérait que son premier fils avait beaucoup souffert de ça, et sans doute à juste titre. Donc il avait un peu peur des femmes enceintes, quoi, globalement. Ouais, mais bon, est-ce que tu vas péter les plombs aussi, en gros, c'était ça, quoi. Et bon, oui, mais alors tu iras voir un psy, hein, enfin. Et ce que je pouvais complètement comprendre, hein, c'est vraiment le chat échaudé qui craint l'eau froide. Hein, on a pris le temps, on en a discuté, je revenais à la charge régulièrement. Et puis à la fin, j'ai mis un petit coup de pression supplémentaire, parce que le désir d'enfant commençait quand même à être plus important chez moi. Je voyais l'âge qui avançait, alors sans être très très renseignée là-dessus, forcément j'avais quand même lu un ou deux trucs. J'avais entendu parler des grossesses sur le tard, des trucs un peu anxiogènes d'ailleurs, je me disais qu'il fallait pas trop tarder. Et puis, ça s'est fait. Voilà, il m'a dit, écoute, ok, allons-y.
Allons-y,
mais t'as intérêt à ce que ça se passe bien. Hein. J'avais, j'ai arrêté la pilule un tout petit peu avant mes 40 ans.
D'accord.
Donc voilà, donc il y a quand même eu 2 ans.
De négo,
mais pas intense, parce qu'au début, j'avais commencé à en parler, et puis. J'en reparlais une fois tous les 6 mois, et puis ça s'est un peu intensifié sur la fin.
Et comment s'est passée alors cette première grossesse ?
Bien, alors déjà, bon, j'ai mis une petite année à tomber enceinte. Alors, une petite anecdote rigolote, en rapport avec justement les grossesses et les maternités tardives, c'est que à 40 ans, ma gynéco m'a dit clairement, on ne va pas perdre de temps. Ça peut marcher, hein, mais ça peut aussi ne pas marcher, je vous le dis tout de suite. Puis il peut aussi y avoir un recours à la PMA, enfin voilà. Donc elle ne m'a pas caché les choses. Bon, elle m'a dit ça de façon assez diplomatique, sans être anxiogène, mais en gros, au bout de 6 mois, s'il ne se passe rien, vous revenez me voir, on fait les examens, le bilan de fertilité pour votre compagnon, pour vous. Oui, mais d'ailleurs, c'était assez sérieux de sa part de faire ça. Elle a raison. À ce stade-là, on n'attend pas, quoi. Donc, au bout de 6 mois, il ne s'est rien passé. Je suis allée la voir, on a fait la batterie d'examens qui révélait un bilan de fertilité plutôt correct pour l'un et pour l'autre par rapport à nos âges respectifs. Mmh. Et voilà. Et puis, 3-4 mois se passent encore. Je retourne la voir quelques mois avant mes 41 ans. Elle m'a dit, écoutez... Je vous fais une petite lettre de recommandation. Vous allez aller voir un de mes confrères, spécialiste de l'insémination artificielle. Là, clairement, il faut passer à la vitesse supérieure. Et en fait, dans la semaine, je suis tombée enceinte.
Ah oui.
Et ça, j'aime bien le raconter parce que c'est surtout, si parmi les gens qui nous écoutent, il y a des femmes qui essayent d'être maman, parce que c'est quand même un grand classique. Enfin, la force du psychologique et... la puissance du corps, parce que je pense que mon corps s'est littéralement réveillé. Il a dit, oh là là, non, l'insémination artificielle, en tout cas, j'étais vraiment pas renseignée sur la question, je savais que mon conjoint serait pas super partant, moi non plus, je savais qu'il fallait se faire des piqûres, tout ça, j'étais pas déchaînée sur... j'avais pas prévu de m'engager là-dedans. Mmh. Et enceinte dans les 3 jours, et quand je suis retournée voir ma gynéco un mois plus tard... elle m'a fait un grand sourire et elle m'a dit « Ah, j'adore faire des petites lettres, ça marche presque à tous les coups. » Voilà, comme quoi le psychologique joue un rôle non négligeable pour tout ce qui est désir d'enfant. Et après, moi, j'ai eu une grossesse qui s'est bien passée, quoi. Le premier truc que je me suis dit, en fait, c'est « tu es enceinte, tu n'es pas malade ». Et ça, c'est un espèce de mantra que j'ai gardé, mais tout au long de la grossesse. Quoi. Parce que j'avais vu, forcément, à 41 ans, j'avais vu des copines qui prenaient 30 kilos, qui vomissaient pendant 9 mois. Pendant leur accouchement, les sages-femmes leur montaient dessus pour faire sortir le bébé. Enfin, forcément, j'avais quand même... entendu quelques discours un peu flippants et puis j'avais vu quelques grossesses pas top, donc je m'étais dit attention là, t'oublies tout ça, toi ça va bien se passer, de toute façon t'es pas malade, t'es juste enceinte, tu vas avoir un gros ventre, tout est normal, tu vas avoir des nausées, tu seras fatiguée. J'avais même imaginé des problèmes de dos, de circulation, j'étais prête à peu près à tout vivre. Et au final, globalement, ça s'est bien passé. J'ai eu des nausées, j'ai eu des insomnies, mais ni plus ni moins que les autres. J'étais plutôt en forme. J'ai pris peu de poids, j'avais tout dans le ventre. J'ai pu faire du sport jusqu'au bout. Enfin, vraiment une grossesse normale, quoi. Et d'ailleurs, j'ai pas eu de suivi particulier.
C'est ce que j'allais te demander.
Non, un équerre, en fait, il surveillait la prise de poids. Tout va bien. Écoutez, j'ai pas fait d'échographie ou de prise de sang. J'ai fait le diabète gestationnel comme tout le monde. Je me souviens juste que le taux pour le diabète gestationnel était un peu abaissé pour les mamans quadra. Pour les futures mamans quadra. Voilà, c'est juste donc j'étais un tout petit peu limite, mais j'ai réussi à échapper. Au régime sans sucre, avec les piqûres tous les jours. Enfin, j'étais vraiment ric-rac, mais voilà. Et globalement, ça s'est bien passé.
Est-ce que tu as eu est-ce qu'il y a des paroles qu'on t'a dites, qu'on n'aurait pas dit à une femme enceinte plus jeune ?
Alors non, justement, là, autant moi j'ai eu des réflexions en amont, entre 30 et 40 ans, globalement, on me disait « pourquoi tu fais pas d'enfant ?»« qu'est-ce que t'attends ?» Voilà, autant quand j'ai été enceinte à 40 ans, j'ai eu aucune réflexion. Non, je me souviens juste que quand j'allais faire de la gym avec mon gros ventre, on me regardait des fois un peu bizarrement, mais plus parce que je continue à faire du sport avec un gros ventre. Mais sinon, j'ai vraiment eu aucune réflexion. Et c'est pas le cas de tout le monde, pour le coup. Pour avoir enquêté sur la question, les réflexions, elles peuvent aller bon train. Mais moi, j'y ai échappé.
Et alors, tu donnes naissance à un petit garçon ?
Ouais, voilà. L'accouchement se passe normalement. Bon, il y a une petite erreur médicale, mais globalement, ça se passe bien.
Est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ce nouveau rôle de maman ?
Bah plutôt, alors même chose, ça s'est fait de façon assez, assez spontanée. Ouais, moi qui n'étais pas tellement en contact avec des enfants par le passé, en tout cas les premiers mois, j'ai eu des suites de couches, voilà, un peu comme tout le monde, un peu compliquées, avec bon, des petites fuites urinaires, des choses comme ça, mais ça n'a pas duré très longtemps. J'ai pas eu vraiment de baby blues et il y a eu quelque chose de très spontané, même en termes d'attachement. Je me rappelle, j'ai fait du pot à pot tout de suite et je me suis transformée en maman en fait, ouais, très facilement, hein, curieusement. Moi, je m'attendais pas à ça. J'ai trouvé que les difficultés elles venaient après, avec l'éducation, avec. Voilà, c'est parce que je me suis pas mal posé de questions sur l'éducation que je voulais lui donner. J'avais lu des bouquins, j'avais pas forcément tout bien compris d'ailleurs, enfin, comme beaucoup de parents, je voulais faire bien, j'avais pas envie de rater des trucs, donc je trouvais que c'était plus dur après. Mais en tout cas, les premiers mois, on va dire les 6 premiers mois, ça s'est fait très, très facilement, avec de la fatigue à gérer, hein, évidemment. Mais j'ai eu un enfant qui a fait ses nuits au bout de 3-4 mois, donc sans trop de difficultés, quoi.
Et la relation entre les deux petits garçons ?
Alors les deux, ouais, alors les deux petits garçons, le premier, il était déjà plus trop petit, il avait quand même 9 ans.
Ah, oui.
Mon beau-fils, il avait 9 ans quand mon fils est arrivé. Et super bien, ça s'est super bien passé. On avait fait en sorte d'intégrer vraiment Thomas à la grossesse, à l'arrivée de l'enfant. Il avait choisi le prénom avec nous, par exemple. Mmh. Parce que son père avait quand même des craintes par rapport à ça, et forcément il était resté enfant unique, en tout cas du côté de son papa pendant 9 ans, donc c'était pas forcément évident, mais je me rappellerai toujours quand on lui a annoncé ma grossesse, il a été le premier à le savoir, il nous a regardé, et du haut de ses 9 ans, il nous a dit « je trouve que c'est une très bonne nouvelle ». Et vraiment, et je pense que c'était sincère. Alors bon, lui, il m'avait quand même commandé un petit frère. Hein. Il voulait pas de petite sœur. Il disait, non, mais un frère, là, ça serait quand même pas mal, un frère à Mise. Non, parce que quand même, on pourra plus rigoler. Bon, c'est vrai que les filles, à 8-9 ans, bon, c'est pas... voilà. Donc, c'était rigolo, ça. Et oui, il a tout de suite joué le rôle du grand frère. Alors, même chose, hein, petit conseil dans les familles recomposées, parce que c'est pas évident de gérer l'arrivée d'un nouveau-né. C'est vraiment bien donner chacun sa place, expliquer que personne ne va prendre la place de personne, que chacun a son rôle, et lui, on a tout de suite investi du rôle du grand frère, très rapidement, il lui a donné des biberons. Alors, c'est vrai qu'on pouvait le faire, hein. À 9 ans, voilà, il avait l'habileté nécessaire pour faire ça, il était assez responsable, donc voilà, mais ça s'est très bien passé, ouais, tout à fait.
Ta maternité tardive t'a inspiré l'écriture d'un livre ?
Oui. Alors, pas tout de suite. Hein. C'est vrai que j'ai accouché. J'avais en tête quand même le fait que la grossesse tardive, on n'en parlait pas de façon super positive. Parce que pendant ma grossesse, j'étais allée retaper un peu sur Google, voir ce qui se disait. Et en gros, on me disait que j'allais faire un trisomique, une fausse couche, du diabète, enfin voilà, on me promettait des trucs vraiment super chouettes. Rien de cela ne s'est passé. Et je m'étais dit quand même, un jour, il faudrait peut-être réussir à parler de ça en mieux, quoi. Enfin, parce que c'est pas du tout mon expérience. Mais voilà, j'avais pas de projet particulier. Et puis, à l'époque, j'avais relancé Côté Bébé, je l'avais transformé en fait de portail de petite enfance, j'en avais fait un webzine. Voilà, j'avais envie de parler de maternité, de faire parler d'autres personnes aussi, et d'inviter des gens à s'exprimer sur le sujet. Et puis, je suis tombée par hasard sur Agathe, au détour d'un clic, ou je ne sais plus, d'un communiqué de presse. Enfin, bref, on est rentré en contact sur le web.
Agathe, c'est...
Donc, Agathe, c'est ma co-auteure, voilà. Et Agathe Giraudoux. On s'est rencontrés... On a eu envie de faire quelque chose ensemble. En fait, il y a un espèce de feeling qui est bien passé entre nous. Elle était jeune maman aussi, enfin, jeune maman tardive, moins tardive que moi. Elle a eu son fils à 37 ans. Et tout de suite, on s'est dit, mais il y a peut-être quelque chose à raconter. Enfin voilà, Puis on était parti sur l'école alternative, parce qu'on commençait à beaucoup parler de Montessori, pourquoi pas un documentaire, pourquoi pas un site. Enfin, on réfléchissait à plein de projets qu'on pourrait mener ensemble. Et à un moment, je lui ai dit, mais écoute, moi, il y a un truc quand même, c'est la parentalité tardive. Je pense qu'il y a quelque chose à faire, surtout qu'il n'y a rien. je n'ai jamais rien vu sur la question, ni bouquin, ni site dédié. Alors, il y a bien quelques articles, mais plutôt en mode anxiogène. Et on est parti là-dessus. Alors, on a fait un sondage en se disant, bah tiens, les parents tardifs, c'est qui? Il faut peut-être déjà les rencontrer avant de savoir ce qu'on veut faire. Et au fil des rencontres, on a mûri un peu le projet. Et on s'est dit qu'on allait faire ce qu'on savait faire, écrire. Elle était journaliste, moi je m'occupais pas mal de côté bébé, je fais de la rédaction web en dehors. Donc... on a envoyé un petit PowerPoint, on avait un contact dans une maison d'édition, on a fait un petit PowerPoint de quelques pages qui présentait le projet. Et là, tout de suite, on a eu un retour. Alors, on a envoyé ça avant les vacances, mais dès la rentrée, on a eu un retour de la part de l'éditeur qui nous a dit, écoutez, il faut qu'on se voit, j'aime beaucoup ce projet, il faut qu'on en reparle. À l'origine, on voulait plutôt faire une fiction. On imaginait un personnage de maman tardive à qui arrivait plein de trucs. Un peu la Bridget Jones. Enfin voilà, on était plutôt partis sur un espèce de journal intime. Avec, en divulguant ici et là, des petites infos un peu plus techniques sur la grossesse. Et notre éditrice nous a dit, mais ça pourrait être intéressant d'inverser la tendance et de faire peut-être plutôt un guide pratique. Et Roll, en l'occurrence, est spécialisé dans les guides pratiques. Et on s'est dit, bah ouais, très bonne idée. Très bonne idée. Du coup, on est parti plutôt sur du journalisme d'enquête, c'est-à-dire qu'on a été rencontrer des parents tardifs, beaucoup de professionnels aussi, parce qu'on avait évidemment notre expérience, toutes les deux, chacune différente d'ailleurs, mais il nous semblait éminemment important d'aller voir ce qui se passait chez les autres, parce qu'on n'avait pas, on ne savait pas vraiment qui étaient ces parents tardifs. Bon, on avait chacune notre profil, mais justement, en allant enquêter, on s'est aperçu qu'il y avait... effectivement les working girls, les mamans solo, les couples lesbiens qui arrivent souvent à la parentalité et qui acceptent souvent plus tardivement à la parentalité, les couples homo, les familles recomposées, les couples plus classiques qui décident d'en faire un petit dernier. Donc voilà, ça nous a permis d'avoir une vision un peu plus globale de qui étaient ces parents tardifs. Ensuite, on a été voir les professionnels. Il n'était pas question d'avoir un discours qui ne reposerait que sur du ressenti. L'idée, c'était quand même de valider aussi un certain nombre d'informations et puis de tenir un discours surtout très juste par rapport à la parentalité tardive. Avec, bien sûr, l'idée étant de déculpabiliser, de décomplexer et de porter un regard positif. Mais avec quand même l'appui des professionnels et un discours qui pouvait être entendu par des médecins.
D'ailleurs, dans ce livre, tu expliques que les maternités tardives ont toujours existé, notamment parce qu'il n'y avait pas de moyens de contraception avant. Et aujourd'hui, les raisons donc, sont diverses, tu les as évoquées, mais on en fait tout un cas, en fait.
Oui, alors, de moins en moins quand même, mais oui, c'est vrai. Moi, il se trouve qu'à Necker, j'ai été suivie de façon tout à fait classique, mais pour avoir parlé avec beaucoup de mamans qui ont été qui ont eu des grossesses tardives, c'est pas le cas partout. Hein. C'est-à-dire que on a vraiment, il y a des gens qu'on terrorise. Il y a des femmes qui sont littéralement terrorisées par le corps médical parce qu'elles ont, elles sont enceintes à 39 ou 40 ans. Et nous parlons pas de celles qui sont enceintes à 45 ans. Voilà.
D'ailleurs, on appelle ça les maternités
gériatriques. Oui, c'est très joli. Hein. Donc, et en fait, voilà, quand on interviewe vraiment les médecins, en tout cas les spécialistes de la grossesse tardive, c'est pas du tout le discours qu'ils tiennent. Ils disent, attendez, au-delà de 45 ans, c'est un peu plus compliqué, c'est clair, mais une grossesse autour de 40 ans, aujourd'hui, c'est quelque chose qui se gère très bien et finalement, les risques sont minimes. Bien sûr, ils augmentent, bien sûr, il y a un peu plus de trisomie, bien sûr, il y a plus de diabète gestationnel ou d'hypertension, mais ça reste, on parle de chiffres qui restent infimes. Donc ça, c'est important de le rappeler.
Et qu'est-ce qui est important pour toi? Quel message tu veux faire passer à travers ce livre?
Y a plusieurs choses. Alors, de par mon expérience, moi, ce que j'aimerais dire aux jeunes femmes d'aujourd'hui, c'est de pas céder à la pression sociale, parce qu'il y a quand même une vraie pression sociale par rapport à ça, de pas non plus laisser trop filer le temps. Évidemment, l'idée, c'est pas de dire, allez hop, on fait toutes des bébés après 40 ans, non, parce que c'est pas toujours possible. On peut être amené à avoir recours à un parcours de PMA, etc. Voilà, ça peut être compliqué, mais moi, en tout cas, je m'étais dit, voilà, je préfère prendre le risque de ne pas faire d'enfant plutôt que d'en faire un à contre-cœur. Ou parce qu'on m'aura dit, mais attends, vas-y, fais un enfant, c'est l'âge, c'est maintenant, etc. Donc, voilà, moi, j'ai un petit message à faire passer quand même par rapport à cette pression sociale. C'est essayer de s'en dégager et s'offrir le luxe d'y résister. Mmh. Voilà, si on peut. Après, si on a envie de faire un enfant à 25 ans, il faut y aller, quoi. Évidemment. Et puis, le deuxième message, c'est effectivement de déculpabiliser les hommes et les femmes qui accèdent à la parentalité tardive par choix ou pas, parce que c'est pas toujours un choix. Il y a des gens qui essayent de faire un enfant à 30 ans et qui deviennent parents à 40 ans. Mmh. Et de pas vivre ça mal, de pas se dire que on va pas être là tout le temps pour son enfant, de pas culpabiliser par rapport à cette histoire, parce que chacun son histoire.
Et alors, comment tu vis ta maternité tardive ? Est-ce que tu as des notes, des points positifs et d'autres points négatifs au quotidien ?
Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a la fatigue. C'est vrai que la fatigue, elle est là tout le temps. Elle n'est pas là juste les trois premiers mois quand il n'arrive pas à faire ses nuits. La fatigue, elle s'amplifie au fil des années. Donc, j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai un petit garçon de 4 ans et demi. C'est pas évident tous les jours, mais j'essaye de me maintenir en forme. Ça, je pense qu'on est nombreux d'ailleurs dans cette situation, les parents tardifs, à essayer à faire attention à soi, continuer à faire du sport, essayer de se maintenir pour continuer à assurer au quotidien. Mais malgré tout ça, la fatigue est là, c'est certain. Les points positifs, je dirais que c'est peut-être un certain recul par rapport à la vie. Je pense que moi, ça m'a aidé à vivre ma grossesse, le fait d'être plus âgée. À 30 ans, je n'aurais peut-être pas vécu cette grossesse en prenant autant de recul. J'aurais peut-être pris plus à cœur tous les petits mots du quotidien. Et puis même pour l'éducation, pour éduquer son enfant au quotidien, oui, ça donne... On a aussi un petit peu plus d'expérience de la vie, on va peut-être moins s'inquiéter et aussi s'engager pleinement dans cette éducation. Moi, je n'aurai pas d'autres enfants, donc j'ai envie de profiter de chaque étape de la vie de mon fils. Donc c'est vrai que je lui consacre du temps.
Oui, tu me parlais de l'hyper-parentalité.
Oui, tout à fait. Alors ça, c'est un truc auquel il faut faire attention, c'est vrai. Alors ça ne concerne pas que les parents tardifs. Hein. C'est une tendance un petit peu globale qu'on observe aujourd'hui. En tout cas, dans les pays industrialisés, c'est qu'on mise beaucoup sur ses enfants. On a tendance à avoir des attentes importantes vis-à-vis de ses enfants et vis-à-vis de soi-même. Mmh. Les psys expliquent qu'au bout d'un moment, ça peut créer de la souffrance. Donc, il faut être effectivement attentif à ça. Réussir à s'engager dans l'éducation de son enfant sans tomber dans l'hyperparentalité. Voilà, parents engagés, hyperparents, il y a une frontière qui est un peu ténue là, et voilà, c'est pas évident au quotidien. Moi, j'essaye de faire en sorte que ça ne se produise pas, mais j'y arrive pas toujours. Et puis en dehors de ça, essayer de pas trop jouer les parents parfaits. Ça, c'est pas facile quand on veut tout faire bien, quand on ne veut rater aucune étape. Parfois, c'est un peu compliqué. Donc, ne pas oublier de déculpabiliser régulièrement, de dire qu'on peut rater des choses, que c'est pas grave, quoi. On va pas traumatiser son enfant.
Est-ce que tu as déjà regretté de ne pas avoir fait ton enfant plus jeune ?
Alors, le seul petit regret que je pourrais avoir, si par exemple je m'étais mise à 38 ans, j'en aurais peut-être fait deux. Voilà. C'est ce que je me dis. Après, peut-être que non. Hein. Mais c'est, voilà, à 46 ans, je me vois pas refaire un enfant. Et c'est vrai que même autour de 43, 44 ans, je me suis pas tellement reposé la question parce que j'avais peur d'être trop fatiguée en ayant déjà un enfant, vivre une grossesse tardive en ayant déjà un enfant, je le sentais pas. Mm. Voilà. Mais c'est très personnel, hein, parce que je croise de nombreux parents qui ont tenté le coup et pour qui ça se passe très bien. Moi, à titre personnel, je ne me sentais pas de faire ça. Et puis, j'ai aussi mon beau-fils, donc, qui a 14 ans aujourd'hui, qui demande aussi de l'attention. Et c'est vrai que j'ai quand même assez souvent le sentiment d'avoir deux enfants, même s'il n'est pas là plein temps. Et un troisième, je me demandais aussi si j'allais pouvoir consacrer du temps à tout le monde. Mmh. Voilà, je ne suis pas certaine de ça. Donc là, la situation actuelle me convient. Mon fils est un grand frère, un grand demi-frère. Bon, bah voilà, il aurait peut-être aimé avoir une petite sœur aussi, je ne sais pas, mais c'est déjà pas mal.
Et alors, qu'est-ce que ça a changé pour toi, la maternité ?
Ça a changé mon quotidien, évidemment. Moins de temps pour soi. Mais voilà un point intéressant. Moi qui étais, donc, comme je le disais, quand même forcément assez centrée sur moi-même les années qui ont précédé cette grossesse, j'ai réussi à me décentrer hyper facilement. Et je ne pensais pas que ce serait aussi simple. Alors bien sûr, hein, je vais beaucoup moins au cinéma, je vais moins dans les musées, je vois mes amis, mais pas autant que le souhaiterais. J'ai quand même cette sensation de faire un petit sacrifice, mais ça ne me pèse pas plus que ça, en fait. Et ça, je pense que c'est le fait aussi d'avoir peut-être bien vécu en amont, d'avoir pu faire un certain nombre de choses, d'avoir été au bout d'un rêve, d'avoir pu profiter de la vie, pu voyager, pu me coucher à pas d'heure quand je le voulais. Bon, finalement, faire le deuil de tout ça, ça a été relativement simple.
On va passer aux petites questions de fin d'épisode. Alors, c'est quoi pour toi être une maman parisienne ?
Courir dans le métro. Je prends beaucoup le métro.
Quel est ton endroit kids friendly préféré à Paris?
Il y en a plusieurs. J'aime bien les 400 coups à la Cinémathèque près de Bercy, dans le 12e. Je trouve que c'est un resto sympa, il y a un petit coin pour jouer. J'aimais bien, mais je crois que ça a fermé, Happy Family à Beaubourg. Je trouvais ça assez sympa, j'y étais allée de temps en temps. Et puis, j'aimais bien des endroits qui ont fermé. J'aimais bien Coworkcrèche. J'ai trouvé que c'était chouette. J'avais rencontré la fondatrice, j'étais allée y passer quelques temps. Je trouvais que c'était assez sympa. Voilà, et puis, sinon, non, j'ai pas vraiment d'endroit kids-friendly à titrer. Je trouve que Paris, finalement, est relativement kids-friendly. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de choses à faire pour les enfants. Beaucoup d'expos, beaucoup d'activités, en plus relativement abordable finalement. Je sais pas, ouais, pour moi Paris est relativement kid-friendly.
Et quels sont tes projets rien que pour toi et ceux prévus en famille ?
Alors, moi j'aime bien régulièrement, j'essaie de faire ça une à deux fois par an, me faire une petite retraite de yoga. Mmh. Voilà, ça c'est mes petits plaisirs personnels. Je pars entre 3 et 4 jours avec d'autres yogis pour méditer, pour faire du yoga, pour rigoler entre filles aussi. Et puis des projets en famille, il y en a un qu'on aimerait bien réaliser, mais bon, c'est un peu compromis pour l'instant, ce serait de partir vivre à Bordeaux. Voilà. On aimerait bien quitter Paris, même si on aime beaucoup cette ville. On a envie d'aller voir ailleurs ce qui s'y passe. Voilà.
Merci beaucoup, Annelise.
Merci.
Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Annelise, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 27 sur Instagram grâce au hashtag Le Tourbillon Podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode.
Hey, As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.